remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Femmes Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, mercredi, de 17h à 18h30, nous retrouvons nos amis de la librairie L'Inédite qui aujourd'hui vont nous parler de la nouvelle revue Présence, la revue 1991, éditée par l'Alliance Romande, l'Alliance Culturelle Romande, excusez-moi. Alors, dans quelques instants, nous retrouvons Annette et Evelyne pour évoquer cette nouvelle revue qui a un sexe... Voyez-vous le lapsus intéressant, qui a un titre qui bien sûr nous concerne, c'est « Deux sexes, c'est un monde », revue qui a été dirigée par Gilles Silberstein et avec la collaboration de Sylvia Ritchie-Lempen, Sylvia Ritchie-Lempen qui collabore au magazine Femmes Suisses, comme vous le savez toutes, puisque vous êtes des fidèles lectrices. Tout de suite, nous partons en musique.
Piano qui ne jouait pas si faux, il est cassé, quel dommage. Il est rouillé le vélo qui dormait sous le préau par le soleil et l'orage. Elle a jauni la photo des enfants qu'on trouvait beaux, ils ont changé de visage. Car il est passé le temps, le joli temps des enfants, le temps des livres d'images. Ils se font une raison, ce qu'on laisse à l'abandon, dans la maison vide et sage. Et dans le salon feutré, seuls viendront prendre le thé, ceux qui n'avouent plus leur âge. Car il est passé le temps, le temps des parents. Il faut bien vivre sa vie. Quand on a grandi, on se dit pour être heureux, il faut être deux. Et puis l'on est davantage et l'on prend de l'âge. On prend de l'âge, on prend de l'âge. Tra-la-la. Thank you.
c'était le piano qui ne jouait pas si faux. Il est cassé, quel dommage. Il est rouillé, le vélo qui dormait sur le préau, par le soleil et l'orage. Et l'on regarde en photo des enfants qu'on trouvait beaux, qui ont changé de visage.
Chantal Grimm qui nous parlait du piano cassé. Alors la revue Présence est éditée, comme je vous le disais, par l'Alliance culturelle romande. En Suisse, en cette année 1991, qui va très bientôt se terminer, eh bien, selon l'Alliance culturelle romande, cela ne saurait être seulement celle du 700e anniversaire de la Confédération. Envisagée sous l'angle des idéaux démocratiques, eh bien, cette année marque encore, bien sûr, comme nous l'avons déjà souvent dit, les 20 ans de l'accession des femmes aux droits civiques, comme les 10 ans de la ratification dans notre Constitution de l'égalité des droits entre hommes et femmes. Et c'est sur ces deux derniers aspects qui cristallisent un combat de pointe de la société helvétique que la revue Présence de l'Alliance culturelle romande a souhaité se concentrer. Alors pourquoi ces choix? Eh bien, montrer qu'il y a encore loin de l'égalité de droit à l'égalité de fait qui concrétiserait ces principes affichés mais trop souvent trahis. C'est aussi dégager les motifs pour lesquels les institutions, état législateur et mentalité, société civile, s'accorde à contrarier toute mise en pratique d'une parité juste et nécessaire entre hommes et femmes, la soi-disant différence naturelle entre les sexes, généralement admise débouchant immanquablement sur une discrimination. Troisième raison, mettre en lumière les stratégies de solidarité qu'implique à court et à long terme une réelle volonté d'instaurer une société plus équitable. Et pour finir, relever enfin en quoi cette mise en perspective sociale ou civique, confrontant les déclarations de bonnes intentions aux réalités les plus quotidiennes, ne saurait épuiser les recherches spéculatives liées au destin existentiel des femmes. Autant d'investigations qui sont conduites par de nombreuses femmes que vous présenterons tout de suite, Annette et Evelyne. Encore un mot sur cette revue présentée par l'Alliance culturelle romande. Présence est une revue d'anthropologie culturelle, attentive aux réalisations et aux idées de son temps, comme aux métamorphoses des mentalités. Et déjà, trois revues ont été proposées par l'Alliance culturelle romande. Ces livraisons sont annuelles. La première, en 1988, avait pour titre « L'esprit de la fête populaire », puis en 89, « La guerre des battants », en 90, « L'éloge du rire », et 91, « Deux sexes, c'est un monde ». La revue Présence, dont nous allons parler aujourd'hui avec nos amis de la librairie, l'inédite librairie des femmes à Genève. Dans quelques instants. Alors Evelyne et Annette, on va aborder un petit peu ce gros morceau qu'est la revue Présence, parce qu'on, justement, on se disait tout à l'heure, c'est une revue, mais il faut bien constater que c'est une revue qui est importante. C'est un gros bouquin de combien, 200 et quelques pages, qui pèse son pesant de contenu, c'est pas seulement de
substance.
Poids.
Substance.
Voilà, exactement, de substance. Alors, il faut peut-être dire que la revue, donc, « Deux sexes, c'est un monde » se partage en quelque sorte en trois chapitres, hein, si l'on peut dire, avec un qui a pour thème l'exigence démocratique, le deuxième « Féminiser la société » et le troisième « Valeurs et identité ». Alors, vous avez chacune lu quelques-unes des contributions à chacun de ces chapitres. Est-ce qu'on voit, il y a vraiment des points communs, par exemple, en toutes les femmes qui ont écrit dans ces différentes contributions? Parce que bon, on reconnaît Martine Chaponnière, Corinne Chaponnière, Sylvia Ritchie-Lempel. Moi, personnellement, je reconnais aussi Béatrice Desplans, qui, en tout cas à l'époque, la grève des femmes a beaucoup contribué à expliquer les problèmes d'assurance sociale concernant les femmes. Maintenant, les autres, je ne les connais pas particulièrement. Est-ce qu'il y en a qui, d'emblée, sont connus parmi le monde féministe, des auteurs féministes?
Oh oui, tout à fait, parce que Michel Ledeuf est connu pour L'étude et le rouet, qui est aussi une étape dans la pensée féministe.
Donc Michel Ledeuf, c'est une philosophe?
C'est une philosophe des sciences qui est rattachée au CNRS en France. Tu avais aussi Thérèse Moreau, qui a écrit plusieurs livres, qui a fait la traduction de La Cité des Dames, qui est un classique, un des premiers livres sur une ordonnance féministe du monde moderne, disons. Christiane de Pizan, c'est elle qui a fait la traduction du vieux français en français moderne. Et l'introduction, elle a écrit aussi « Ce fruit maudit de vos entrailles », récemment « Le langage n'est pas neutre », pour dire qu'elle est connue.
On peut rappeler aussi que Patricia Schultz, qui signe un article qui est intitulé « Aspects de la problématique égalitaire en Suisse », travaille beaucoup actuellement à l'Université de Genève pour défendre le statut des femmes à l'université. C'est elle qui est à l'origine de toute une étude sur les quotas, le problème des quotas qui n'est pas du tout résolu quand même aujourd'hui. Et c'est parti d'ailleurs de la nécessité de prévoir une crèche à l'Université de Genève.
Il y a aussi Sylvia Ritchie-Lempen, qui est la rédactrice responsable de la seule revue féministe, disons un peu théorique, de Suisse romande, voilà, hein, femme suisse. Je dois dire que moi, j'ai découvert alors d'autres femmes qui sont dans cette table des matières, comme Marie-Hélène Fankhauser ou Edith Slembeck, que je ne connaissais pas. Et, il faut parler de dans Claudia Kaufmann aussi, voilà, hein, qui est Madame Égalité au niveau de la Confédération.
Et puis donc, certaines sont belges et françaises, donc il n'y a pas seulement des femmes suisses, on a des contributions étrangères. Il faut remarquer que parmi toutes les femmes qui ont écrit, qui ont contribué à la réalisation de Deux sexes, c'est un monde, il n'y a pas d'homme. Le seul homme, on le trouve en sommaire, en éditorial, et c'est Gilles Silberstein. Alors, on essayait de se rappeler tout à l'heure où c'est qu'on avait déjà entendu parler de Gilles Silberstein, et on s'est souvenu qu'effectivement, justement, dans Femmes Suisses, avait été publié un entretien entre Gabrielle Nunchen, à l'époque où elle avait sorti son dernier livre, et d'autres femmes. Il y avait Martine ou Corinne, Martine Chapenaire, je crois, hein, et puis Sylvia Ritchie-Lempen et Gilles Silberstein.
Et il y avait encore à cette table ronde, on peut l'évoquer, même si elle n'est pas à Genève aujourd'hui, Rosiska Darcil et Oliveira, qui est quand même la personne qui a lancé à l'Université de Genève un cours séminaire sur les femmes.
Voilà, aujourd'hui, qui est donc Rosiska, qui est brésilienne, donc, qui se partage entre la Suisse et le Brésil, de temps en temps, elle vient nous rendre visite. Alors, effectivement, Gilles Silberstein, c'est lui qui a fait l'éditorial et qui dirige aujourd'hui, je crois, la publication. Hein. C'est pour ça que...
Oui, c'est le directeur de présence depuis c'est la quatrième année, c'est la quatrième production. Cette revue est annuelle, c'est la quatrième production qu'il fait.
Et donc, il a choisi de réaliser celle-ci en collaboration avec Sylvia Ritchie-Lempen, dont on supposait qu'il avait dû la rencontrer lors de cette fameuse table ronde. Toutes les suppositions sont permises. Alors, moi, j'étais chargée de lire l'éditorial de cette revue. Je dois dire que, sur le moment, je n'avais pas fait le rapprochement avec ce que j'avais lu dans Femmes Suisses. Et j'étais assez surprise de me dire, mais ce Gilles Silberstein, qui sait, pour qui il connaisse si bien ce que défendent les femmes et qu'il soit capable d'en faire comme ça un immense tableau, et surtout un tableau plein d'humour, je dois le reconnaître, entre autres à l'adresse de ces hommes qui n'y comprennent toujours rien et qu'ils traitent de chères vertueuses offensées par les revendications des femmes. Et je pense que, en tout cas, ça vaut la peine de commencer de se mettre un peu en branle pour la lecture de ce pavé qui ne semble pas si simple que ça à aborder, mais qui, en tout cas, commence par toutes sortes de bons moments d'humour présentés par Gilles Silberstein. En tout cas, il faut lui reconnaître que, effectivement, il remet en boîte ces chères vertueuses offensées qui, pour toutes sortes de raisons, cherchent à mettre de côté les revendications des femmes. En tout cas, dans un premier temps, par exemple, il démontre qu'est-ce qui serait, soi-disant, les difficultés d'application de l'article constitutionnel numéro 4 qui donc donne l'égalité entre hommes et femmes, ce que ces chers vertueux offensiers ont l'air de dire qu'il est déjà réalisé depuis belle lurette. Eh bien, lui, il fait la liste de tout ce qui n'est pas réalisé, n'est-ce pas, en disant, est-ce que c'est si difficile d'appliquer l'égalité de salaire? C'est vrai qu'on peut constater que c'est comme ci, comme ça aujourd'hui, on ne va pas répéter toutes les choses que nos auditrices connaissent fort bien. Est-ce que c'est si difficile d'appliquer une sous-représentation des femmes? Parce qu'évidemment, il les prend tout à fait à l'embours du bon sens. Il met en évidence les inégalités d'éducation et de formation. Il met en évidence la mixité non réalisée dans les jurys, par exemple. Le fait que, bien sûr, on fasse payer les femmes plus que les hommes dans certaines cotisations, alors qu'au contraire, on leur reverse beaucoup moins quand c'est la VS. Il fait remarquer, et je pense qu'il va assez à fond, hein, justement, dans cette analyse, le fait que ces chères vertueuses offensées tolèrent une délirante manipulation du corps de la femme, je le cite là, à propos, dans les rapports sexuels, par exemple, l'impitoyable domination exercée par un sexe sur le corps de l'autre, par l'entremise d'une idéologie pour qui l'avortement demeure un crime, c'est toujours une citation. Et puis... Il fait constater que, bien sûr, certains diront que les lois n'avancent pas, mais c'est surtout à cause des mentalités qui n'avancent pas, et lui de dire, mais est-ce qu'enfin, au même son que Gisèle Halimi, puisqu'il la cite, la loi ne pourrait-elle pas une fois précéder les mœurs? Ensuite, alors là, il y a vraiment tout un chapitre fort rigolo, où il se met à dire que, de toute manière, heureusement qu'il écrit, parce que s'il avait parlé en face de certains mâles, on ne l'aurait certainement pas laissé placer plus que deux phrases de ce genre. Et dit-il, je profite de cet avantage qu'on me lira plutôt que je ne parle. Et il continue à citer des anciens, des grands philosophes qui auraient voulu accorder avec une sorte de bienveillance le droit à la différence des femmes, mais comme par hasard, pour leur montrer qu'elles avaient qu'à rester à leur place et justifier les discriminations les plus croustillantes. Alors il nous cite notre cher Jean-Jacques Rousseau, bien sûr. Il cite même Aristote. Alors là, je crois dire qu'il y a des... C'est vraiment intéressant de savoir ce que ces hommes pensaient. La femme doit commander seule dans la maison. Et il est même indécent à l'homme de s'informer sur ce qui s'y fait. Voyez-vous ça? Mais la femme, à son tour, doit se borner au gouvernement domestique, ne point se mêler du dehors et se tenir renfermée chez elle. Et maîtresse de tout ce qui l'entoure, maintenir toujours sa personne sous l'absolue loi du mari. Et puis, pour finir, évidemment, il fait remarquer que si on n'est pas, bien sûr, on n'est peut-être pas leurs égales, mais on est presque leurs supérieurs, n'est-ce pas, de constater. Oui, on est presque supérieurs, parce que remarquez donc, nous donnons la vie, nous protégeons la vie, nous gérons la vie, on les console, on les bichonne. Et en fait, ils nous rendent cet hommage magnifique parce qu'en fait, à nous revient l'entière gestion du ménage. Donc, on est très supérieurs en eux pour cette question-là. Enfin, ils ne cessent de se moquer, J'ai dit Bersheim, des hommes de toutes les manières possibles, constatant aussi que depuis des décennies, la littérature masculine ne fait que s'acharner pour prouver que l'homme existe, n'est-ce pas? Il cite en parlant de l'Iliade et l'Odyssée, du Mahabharata, enfin bref, il fait des cheminements assez rigolos pour montrer ce que les hommes ont trouvé dans la littérature pour les confirmer dans leur rôle. Il cite bien sûr la publicité, le cinéma qui cantonne la femme dans le rôle de faire valoir et que s'il n'y avait pas eu la femme, on n'aurait jamais parlé des guerres, les gloires de nos guerres seraient inconnues, comme dit Virginia Woolf. Et bon, bref, je pourrais encore citer de nombreux passages très rigolos. Et à un moment donné, il s'en prend aux femmes. Et oui, il s'attaque même aux femmes en disant, eh bien, il y a des femmes, et nombreuses, et elles existent, je les ai rencontrées, dit-il, qui, chaque fois qu'on parle d'une percée féministe, disent, en tout cas, moi, je ne suis pas féministe. Et alors, de se demander, mais pourquoi ces femmes ont tellement peur qu'on les traite de féministes? Pourquoi ont-elles tellement peur du mot féministe? Il parle même de répulsion pour son mot féministe. Alors, je crois que les femmes, voyez-vous, elles trouveront même de quoi essayer de comprendre pourquoi elles sont à ce point-là révulsées par le féminisme. Et bon, je vous passe la suite parce que je crois que c'est encore long, il y a de nombreuses pages, mais il conclut en disant que finalement, ceux qui veulent bien envisager quand même un monde où il y aurait deux sexes, donc un monde sans deux sexes, et là il reprend le titre de la revue, eh bien, c'est que nous serons parvenus à faire admettre qu'effectivement, bien tout bien considéré, deux sexes ne sauraient faire ni plus ni moins qu'un monde qu'il s'agirait de gérer ensemble et qu'en fait, bon, ça peut être que profitable aux uns et aux autres d'arriver dans cette optique et que la contribution théorique qu'il nous propose dans la suite de la revue pourrait nous aider à voir quel intérêt on aurait à gérer ensemble ce monde à deux sexes. Alors, voilà, moi je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a un homme qui peut faire comme ça une analyse aussi bien de ses congénères, de ses femmes qui rejettent le féminisme, et qui ensuite a réuni autour de lui des femmes qui pourraient l'aider à contribuer à sa préoccupation, qui était de donner la parole aux femmes en ce moment de 700e, de 10 ans et de 20 ans, anniversaire de droit dont nous avons déjà amplement parlé.
Alors, et elles vont parler beaucoup des hommes dans leurs articles.
Voilà, parce que j'ai entendu des remarques justement de ces fameuses femmes qui, des fois, rechignent à évoquer le mot féministe. Disaient, enfin, c'est quand même incroyable, le titre c'est « Deux sexes c'est un monde et il n'y a qu'un sexe qui s'exprime », puisque nous voyons que auteurs qui les écrivent.
Souvent, on a dès qu'on s'attache à, dès qu'on se centre sur quelque chose de très précis, on est toujours considéré comme voir qu'un aspect des choses.
Voilà.
Alors que c'est très souvent, et c'est bien démontré dans tous les articles, je crois, c'est une démarche qui est obligée, mais qui n'est pas définitive.
D'ailleurs, c'est ce que Gilles Sibersan met en entête quasiment de son éditorial, de dire finalement, c'est les femmes qui évoquent les problèmes des femmes, mais ça devrait être un problème de société, ça devrait être un problème abordé dans l'intérêt de tout le monde.
Bien sûr.
Oui, parce qu'il y a une espèce de, je dirais, de vocation universaliste dans le féminisme que relève aussi une philosophe comme Michel Ledeuf. Voilà. Dans l'idéal ou dans le... Le plus beau chemin que pourrait prendre le féminisme, ce serait de trouver, tu vois, des solutions qui serviraient à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'elles peuvent parler aux hommes aussi. Elles ont un certain... Elles seront préparées pour le faire, d'une certaine manière. Mais on verra ça par la suite. Toi, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais il est clair. En lisant les articles, on se rend compte que c'est vraiment une préoccupation... qui demeure chez chacune des femmes qui ont écrit ces différentes prestations. C'est effectivement, ce sont des femmes qui s'expriment, elles analysent les deux parties, hein. Il y a toujours justement pas mal de références au monde aussi masculin, mais c'est dans un but de redistribuer les cartes, en fait, et de forcer un petit peu la réflexion à devenir bisexuée.
Les muscles à fleur de peau et ne fume pas des Marlboro. Je n'aime que les vrais hommes, pas les plus forts, pas les plus beaux, pas les champions, pas les héros, pas les James Bond, pas les oraux. Je n'aime que les vrais hommes, ceux qui n'ont pas connu l'armée, les objecteurs, les réformés, les insoumis et les curés. Je n'aime que les vrais hommes, pour qui la puissance est un mal, pour qui la gloire est immorale, ceux qui ne font pas le complexe du mal.
Alors je crois que le mieux c'est de se lancer directement dans l'approche de certains de ces articles. Alors, Evelyne, tu nous proposes tout de suite un article qui est dans le chapitre, donc le premier chapitre, l'exigence démocratique, qui est signé Michel Ledeuf, la philosophe française dont nous venons d'évoquer, et qui a écrit un article, Un monde ou deux, connivence ou séparation.
Convivence.
Convivence, pardon.
Ou séparation.
Oui, connivence.
C'est un joli lapsus, Catherine. Pourquoi pas aussi.
Alors, que peut-elle dire par là? Quel problème pose-t-elle? Convivance, c'est un terme qu'on n'a pas l'habitude de... Le fait de vivre
oui,
ensemble.
Oui, le fait de partager un espace, l'espace aussi bien l'espace privé que l'espace public, le partager entre les hommes et les femmes. C'est de ça dont il va être question dans son article. Alors, elle commence par dire la chose suivante. Dès qu'on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle la question des femmes, en général, on se trouve rejeté vers deux pôles. Il y a deux grands courants de pensée féministes. Il y a le courant qu'on pourrait appeler des égalitaristes, de ceux qui luttent pour l'égalité des droits civiques, des droits économiques, des droits politiques, etc. Et puis il y a le courant qu'on appelle de la différence, Alors, la première chose dont elle s'occupe est de montrer en quoi consistent ces deux courants et comment ils s'opposent effectivement. Alors, elle prend d'abord le courant des égalitaristes et elle dit, effectivement, ils cherchent à réaliser la mixité, comme tu l'as dit, dans les jurys, au Parlement, au gouvernement, etc. Dans toutes les assemblées qui sont actuellement dirigées plutôt par les hommes, on cherche à y mettre la moitié de femmes. Donc, cherche à réaliser la mixité, cherche à donner des mêmes droits civiques, des mêmes droits de salaire, donc économiques, des mêmes droits politiques, des mêmes droits éducatifs, etc., aux femmes. Bon. Et ce courant-là a en sainte horreur, si je peux dire, le courant de la différence, car elles disent, en fait, les hommes ont toujours argué de la différence pour nous opprimer à travers l'histoire. Donc, ça ne peut être que mauvais de parler de différence. Bon. Alors, c'est une première chose. Ces égalitaristes veulent en fait que la société devienne un espace, aussi bien dans le privé que dans le public, qui soit partagé par les deux sexes, où tous les deux sexes aient accès, qu'il y ait, si tu veux, une libre circulation des deux sexes dans tout le social, etc. Bon. D'un autre côté, donc un espace, si on veut, ouvert, une convivence dans un grand espace. Le courant de la différence, au contraire, veut d'une certaine manière enfermer les femmes dans un espace clos parce qu'elles disent « les femmes, nous sommes différentes par essence, ontologiquement, comme disent les philosophes. Notre sexe, notre corps fait que nous sommes ad aeternam différentes des hommes et si tu veux, on peut, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on ne peut rien partager avec les hommes parce que nous sommes d'une essence différente. Ils sont d'une essence, nous sommes d'une autre. Bon. Et ce qui fait que les femmes, au fond, ne peuvent être connues que par elles-mêmes. C'est-à-dire, les seules qui peuvent avoir une bonne connaissance de ce qu'est la femme, ce sont les femmes. Enfin, on finit par les enfermer dans un espace clos. Donc, c'est effectivement tout à fait le contraire de l'autre, où on a vu que tout était ouvert. Donc, c'est bien deux courants qui s'opposent. Et effectivement, je veux dire, les représentantes, les chefs de file, si on peut dire, de ces deux courants, se détestent. Hein. Ils ne peuvent pas se voir. Ça va vraiment très loin.
Est-ce que ça recoupe, par exemple, une différence comme entre les hétérosexuels et les lesbiennes, cette différenciation qui est proposée là ?
Là, tu me poses une colle. je vois. Écoute,
je n'ai jamais réfléchi. La séparation, c'était à un moment donné le propos des lesbiennes qui disaient faut envoyer les hommes sur la lune et puis nous vivons entre nous, quoi.
Oui, si on le prend de ce côté-là, oui, ça prendrait ce chemin-là. Mais ça prend d'autres voies aussi. Parce que, par exemple, si je prends une des grandes critiques qu'elle va faire à ce courant dit de la différence, enfin, qui insiste sur la différence non essentielle de nature qu'auraient les femmes des hommes, elle dit, voyez, il y a d'autres courants dans l'histoire qui ont fait appel à ce genre de notions et ils ont été très dangereux et ils ont été même dramatiquement dangereux parce que c'est un courant, par exemple, c'était tout à fait les mêmes notions auxquelles on faisait appel dans le nazisme chez celles qu'on appelait les mères patries, ces Allemandes qui étaient les anges au foyer, qui faisaient les 3K, la Küche, Kirche, Kinder, hein, à la cuisine, les enfants et l'église. Et ben elles s'accouplaient avec ces terribles soudards qui étaient les soldats SS, et elles fondaient leur idéologie dans cette notion de différence. Donc, c'est quelque chose dont on doit un peu se méfier, enfin, qui peut conduire à des impasses dangereuses. Donc, ça, c'est une des bonnes raisons qu'elle a, Michel Ledeuf, pour craindre et pour se méfier un peu de ce courant de la différence. Mais elle reconnaît que comment je dirais, historiquement, il faut cette étape. Parce que c'est bien vrai que les femmes ont été opprimées et qu'elles ont eu de la peine à se penser d'une autre manière qu'elles étaient aliénées, elles avaient beaucoup de peine à se penser autrement. Donc, une des manières de se penser autrement a été de se replier un peu sur elle-même, de s'entourer de, à la limite, oui, de se mettre dans un espace clos et protégé pour reprendre des forces, pour se ressourcer, pour inventer des choses à l'abri. Si on, et ce n'est pas les seuls, je dirais, qui, dans l'histoire, ont fait ça. Les colonisés ont un peu fait ça. À un moment donné, ils excluent complètement le monde du colonisateur pour pouvoir créer quelque chose de neuf et pour pouvoir créer des moyens de lutte. Les Noirs l'ont fait contre les Blancs, etc. Enfin, on pourrait prendre beaucoup de cas comme ça, de minorités étape comme ça ou de repli. Mm-hmm. Mais il ne faut pas rester à ce stade-là. C'est ce qu'elle veut dire un peu. Parce que si on reste dans ces espaces clos, c'est la mort comme elle dit. Quand les femmes, par exemple, la connaissance des femmes s'enferme dans les universités, dans des séminaires faits par des femmes, sur les femmes, et écoutées par des étudiantes qui sont des femmes, eh ben, on finit par être dans un monde, c'est ce qu'elle appelle elle, la mort aseptique de la pensée féministe.
Donc elle pense que le mouvement féministe en est parfois encore à cette étape-là.
Ce courant de la différence.